C'est avec émotion que je vous remercie d'être là parmi nous ce soir. Tout d'abord les rabbanim qui nous font l'honneur de venir présider cette soirée. Et puis tous nos amis qui sont venus nous montrer leur sympathie ce soir. Pour parler de la yeshiva, et je crois que nous sommes ici ce soir un petit peu pour cela, il faut remonter très loin dans l'histoire. Il faut remonter à 3300 ans exactement, où vous savez que la fête de Shavuot que nous célébrons dans quelques jours, cette fête de Shavuot qui célèbre le Matan Torah, le don de la Torah, il y a 3300 ans de cela. Et remontons un petit peu, mais moins loin, il y a 1900 ans, 1918 ans exactement, nous dit la Gemara, le Talmud, dans le traité de Brachot, que chez Nirnesu Rabotenu, le Kerem Beyavne, lorsque nos maîtres sont rentrés à Yavne, Yavne, chaque enfant juif a rêvé de ce nom. Chaque juif connaît, perçoit à imaginer le mystère de cet endroit où l'on étudiait la Torah, où se réunissaient tous les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël pour étudier la Torah sous la botte romaine. Lorsque nos maîtres sont rentrés à Kerem Beyavne, il y avait là-bas, nous dit la Gemara, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Nechemia, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehuda, qui était Rosh HaMedabrim, qui était le chef, Patach Bekvod HaTorah, il a commencé son discours en ramenant un verset du cinquième livre de la Torah. Un verset où Moshe Rabbeinu parle au peuple juif et lui dit Hayom haze nihyeta le'am, c'est aujourd'hui que tu es devenu un peuple. Et demande Rabbi Yehuda, pourtant, le sof arbaim shana, c'était à la fin de 40 années. La Torah avait déjà été donnée il y a 40 ans. Pourquoi dit-on Hayom haze nihyeta le'am, c'est aujourd'hui que tu es devenu un peuple? Et répond Rabbi Yehuda, pourquoi? Melamed shechaviva Torah alomdea kinetinata misinai. Chaviva, la Torah est chère. Allomdea, pour ceux qui l'étudient, qui netinatam isinaï chaque jour, comme si elle avait été donnée aujourd'hui. Et il y a une remarque, c'est que Rabbi Yehuda a dit, est-ce que c'est aujourd'hui que la Torah a été donnée? Hayom haze nihyeta le'am, nous sommes devenus un peuple le jour où la Torah a été donnée. Et le texte nous dit, Vayichan sham Israël, le peuple est allé camper au pied de la montagne, Vayichan au singulier, Rachidi, Keish Echad, Belevechad, comme un seul homme avec un seul cœur. Le peuple d'Israël est devenu un peuple le jour où il a reçu la Torah. Et dit Rabbi Yehuda, chaque jour où l'on étudie la Torah, c'est comme le premier jour, elle est chaviva, elle nous est chère. On peut découvrir quelque chose dans la Torah tous les jours. Et c'est à nous d'expliquer comment. Regardons un petit peu comment est apparue sur la carte d'Eretz Israël la ville de Yavne. Yavne, tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le jour où Vespasien, ayant gagné la bataille, le reçoit devant lui et Vespasien prend de haut Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai lui dit « Shlama alach malka » Que la paix soit sur toi, roi. Et Vespasien lui dit, je ne suis pas roi, je suis général. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai lui répond, c'est faux. Il est marqué dans le prophète Isaïe, Ve'alvanon be'adir yipol. Ve'alvanon le betamigdash be'adir yipol ne tombera que de la main d'un roi. Et à ce moment-là, un messager est arrivé de Rome pour lui dire que l'empereur était mort et que le Sénat avait nommé Vespasien empereur. À ce moment-là, Vespasien a demandé à Rabbi Yochanan ben Zakkai, que demandes-tu? Et Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a demandé deux choses. Yavne vechachamea. Il ne veut que la ville de Yavne et ses sages. Et il veut aussi les maîtres de la maison de Rabban Gamliel pour enseigner la Torah. Et Vespasien lui a accordé. Et c'est la plus grande erreur stratégique qu'a fait Vespasien, lui qui voulait détruire le peuple d'Israël. Yavne, le mot Yavne, tout le monde sait qu'il y a trois consonances qui sortent de cette racine. Yavne veut dire Bina, Bina la connaissance, l'intelligence, la profondeur. Yavne veut dire Bonnet la construction. Et Yavne veut dire Haniv, c'est-à-dire l'expression. Yavne, c'est la construction du peuple d'Israël dans l'exil. Yavne, c'est la pérennité du judaïsme. Ce sont Kerem Beyavne, nous dit la Gemara, les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient la Torah. C'est eux qui construisent le peuple d'Israël. C'est autour d'eux, autour de l'étude de la Torah, qu'existe la pérennité de notre peuple. Niv, c'est l'expression Bore Niv Sefataim. Nous nous pensons, nous réfléchissons Bina, mais nous nous exprimons aussi par la Torah. Et tout ce que nous avons construit et ce que nous construirons ne le sera que par la Torah. Yavne Vechachamea, c'est l'histoire de la première yeshiva qui a été bâtie sous la botte de l'occupant. C'est l'histoire de la perte de l'indépendance du peuple juif de sa terre, mais de la construction Yavne, Yibane, c'est comme ça qu'un jour nous nous reconstruirons et c'est la raison pour laquelle nous durons jusqu'aujourd'hui. Et cette Torah-là, après Yavne, elle a émigré dans les grandes yeshivot de Babylone au gré des pérégrinations de notre peuple. Elle est allée à Sura, à Pumpedita, à Nardea. Et c'est là qu'a eu lieu la compilation, la rédaction de la Torah Shebaal Peh que représente la Gemara, le Talmud. Yavne, c'est la Mishnah. Babel, la Babylonie, c'est la Gemara. Et cela a continué. Notre peuple est allé en s'étendant, et les Yeshivot aussi. Et la Torah est partie de là, jusqu'à Tétouan au Maroc. Elle est partie jusqu'en Espagne. Elle est partie jusqu'à Séville, jusqu'à Castille. Et elle s'est étendue en Italie. Elle est arrivée en France, des noms que nous ne connaissons pas, des noms que nous connaissons à peine, parce qu'aujourd'hui ce sont des petits villages. Un jour on raconte que le Rabbi Israël de Rougin était avec son fils et il regardait un globe. Il a dit à son fils, tu vois sur ce globe, il y a le nom de toutes les grandes capitales, Paris, Londres, New York. Chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu, devant lui aussi se trouve un globe. Et ses capitales aussi sont inscrites. Mais au lieu de gros points, il y a des petits points. Et qu'est-ce qu'il est inscrit sur ce globe? Il est inscrit Dampierre, il est inscrit Montpellier, il est inscrit Lunel, il est inscrit Carpentras à Marseille, il est inscrit Ramrupt, la ville de Rabbeinoutam, il est inscrit Troyes en Champagne. Et la Torah a continué ses pérégrinations. Et elle est allée en Allemagne, elle est allée au Maroc, elle est allée à Fès, elle est allée en Algérie, à Tlemcen, à Alger. Elle est arrivée jusqu'à Amsterdam. Et vous savez qu'au XVIe siècle, lorsque naissait un enfant juif, on lui donnait la bracha. Tellement était grande et importante la communauté d'Amsterdam, Yehi Ratzon, que Dieu fasse qu'un jour tu sois rabbin à Amsterdam. Et la Torah a continué encore ses pérégrinations. Et elle est allée en Pologne, elle est allée en Allemagne, à Francfort, à Prague. Elle est allée à Varsovie, à Vilna. Et elle a continué jusqu'au siècle dernier. Même lorsque les Juifs sont partis d'Espagne, quelques-uns sont partis en Eretz Israël, d'autres sont arrivés jusqu'en Russie, jusqu'en Pologne. Et les noms que nous connaissons de toutes ces grandes yeshivot du siècle dernier, Mir, Slobodka, Ponovij, ces noms prestigieux, ce sont eux qui sont inscrits sur la carte du Ribono Shel Olam, du Maître du Monde. Et la Torah a subi la perte la plus grande de l'histoire. Et elle s'est retrouvée, de la façon la plus paradoxale, peut-être dans sa forme la plus importante, en Eretz Israël. Et comme nombreux de nos frères étaient partis en Amérique, elle a aussi trouvé sa place là-bas. Et comme la communauté juive de France, elle aussi, est nombreuse, elle a trouvé une place en France. Et peut-être aussi que sur la carte du Ribbono Shel Olam, il y a non pas un grand point, peut-être un petit point, peut-être qu'on ne le voit même pas, mais c'est sûr que c'est marqué. Elle est aussi arrivée, on ne sait pas comment, à Épinay-sur-Seine. Elle est arrivée un jour où, comme on a dit, on se trouvait avec Paul Marciano. Eh bien, on va le dire au café de la Poste à Épinay, en train de savoir comment nous allions commencer. Chaviva, la Torah nous est chère, et nous devons essayer de savoir pourquoi et comment. Nous avons dit que dans le mot Yavne, il y avait trois consonances. La construction, la perception, l'intelligence, et l'expression, Niv. Et on va donner un petit exemple. Tout le monde sait que le Shabbat est matérialisé par 39 travaux qui sont prohibés. 39 travaux, si on essaye de comprendre quelque chose, on va voir que ces travaux, ce sont ce qui englobe toute notre vie. Parce que nous n'avons que deux possibilités dans notre vie. Ou de séparer, ou d'associer. Nous ne pouvons pas créer, mais nous pouvons associer deux éléments, et nous pouvons séparer deux éléments. Et tout ce que nous ferons, tout ce que l'histoire a inventé comme science, tout ce que les hommes pourront découvrir, ce sera toujours à partir de ces deux opérations, ou séparer, ou conjuguer. Jamais on ne trouvera une création nouvelle qui n'ait pas été faite par Akadosh Baruch Hu, le jour de la création du monde. Et les Chachamim nous disent qu'il y a deux sortes de travaux où on trouve leur contraire aussi. Bonne, celui qui construit, on n'a pas le droit de construire. Construire, on met une chose sur l'autre, on associe. Détruire, on fait le contraire, on dissocie. Zoréa, on plante, on associe. Kotser, on dissocie. Et alors, celui qui va essayer de réfléchir au travail de bonnet, savoir qu'est-ce que c'est que cette melacha de bonnet le Shabbat, et il va se dire, en tout cas, creuser la terre, c'est ni la détruire, ni la construire. Et là, nos chachamim viennent et nous disent, la construction commence par la fondation. Creuser le sol, enfouir la pelle, et retirer la terre du sol, c'est ça la construction. Et ça, c'est la melacha, c'est le travail de Binyan, la construction. Yavne v'chachamea, lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai a demandé la construction, Vespasien n'a rien compris parce que pour lui, s'enfouir dans un trou et étudier la Torah, ça n'était pas une construction. À la rigueur, ça pouvait être une destruction. Mais l'esprit des chachamim est différent. Ou le Vanon Badir Yipol, de même que Rabbi Yochanan ben Zakkai savait que le Beth Amikdash ne pouvait être détruit que par l'empereur de Rome, parce que la Torah, c'est notre réalité. C'est celle avec laquelle la Kadosh Baruch Hu, Dieu a créé le monde, Istakel Boraita Ubara Alma, Dieu a créé le monde en contemplant la Torah. Il n'y a rien qui ne puisse être marqué. Ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait compris, Vespasien ne l'a pas compris. Il a voulu laissez les juifs s'enterrer et creuser la terre. Et c'est ça la construction. Zoréa, lorsque l'on veut planter, quelquefois on doit commencer par arracher les mauvaises herbes. Et celui qui n'a pas étudié pensera qu'arracher les mauvaises herbes, c'est le travail, c'est la melacha de Kotser. Mais non, il ne s'agit pas ici de dissocier deux choses. Il s'agit de préparer la terre à la plantation. C'est la melacha de Zoréa. C'est comme ça que l'on plante. Et là aussi, c'est une chokhma, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas partager, parce que c'est la nôtre. Et tous les secrets de la Torah qu'un homme pourra découvrir, parce que la Torah c'est un giloui, c'est une révélation, c'est la révélation de ce que nous sommes à l'intérieur, de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Tout ce que nous pourrons découvrir au cours de l'étude de la Torah, chaviv, ça nous est cher, parce que c'est notre façon de s'exprimer, parce que nous n'en avons pas d'autre. Parce que Akadosh Baruch Hu, il y a 3300 ans, bientôt dans quelques jours, s'est révélé à nous et nous a donné un ustensile. C'est avec celui-ci que nous construirons Yavne v'Chachamea. C'est avec celui-ci que les Chachamim, que les étudiants des Yeshivot ont étudié à Séville, dans les cavernes, dans les catacombes, alors qu'il y avait l'Inquisition. Ce sont les mêmes Talmidei Chachamim qui continuent à étudier lorsqu'il y avait les pogroms en Ukraine. Ce sont les mêmes Talmidei Chachamim qu'aujourd'hui vous retrouvez dans les Yeshivot. Des gens qui ont fait fi d'une grande partie de leurs possibilités matérielles pour pouvoir découvrir, chaviva, découvrir l'essence de la Torah. Dissocier, associer. Tout l'esprit humain n'est fait que de ça. C'est la Torah qui nous permet de comprendre le fond des choses, de comprendre avec l'aide de quelle nature HaKadosh Baruch Hu nous a donné ce monde. C'est la Torah qui nous permet d'élaborer non seulement les halakhot, les lois, car qui pourrait manger kasher si les Chachamim n'avaient pas étudié et étudient encore aujourd'hui la façon dont HaKadosh Baruch Hu veut que nous mangions? Qui pourrait savoir comment on fait des tzitzit, des tefilin, des choses que nous utilisons tous les jours, mais qui en fin de compte se retrouvent aussi par cette étude, toujours par le même processus? L'étude, c'est de trouver l'idée, de la dissocier, de trouver les concepts, de trouver si dans une idée il y a un concept, deux concepts ou trois concepts. La semaine dernière, nous avons étudié la Masechet Bava Metzia. Dans la Masechet Bava Metzia, on voit des personnes qui ont un objet, qui viennent devant le tribunal, qui se disputent le droit. Mais au fond, cela traite de problèmes qui sont tellement grands et tellement forts. Quelle est la définition de la propriété? Est-ce que quelque chose m'appartient lorsqu'il est le résultat d'un acte légal, ou quelque chose m'appartient lorsque les autres m'en ont donné le droit? Est-ce qu'il existe une propriété ou il n'existe qu'une utilisation? Tous ces problèmes-là, que le monde qui nous entoure a résolu à sa façon en inventant des systèmes. Nous, nous sommes obligés de le résoudre, chaviva Torah l'omdea, chaque jour, en étudiant, en essayant de comprendre comment Dieu a créé le monde, en essayant de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu définir, quel est notre rôle. Parce que si nous acceptons ce fait, et vous savez que le don de la Torah pour nous, ça n'est pas une croyance ni une émouna, c'est notre héritage. Et je dis toujours que ceux qui ont reçu la Torah il y a 3300 ans, ceux-là ont vu Dieu apparaître au Mont Sinaï. Ils n'avaient pas de problème de foi, pas de problème de croyance. Mais on leur a promis que leur histoire durerait longtemps et ils n'ont pas vu la réalisation de cette promesse. Pour eux, c'était le futur, ça n'était qu'une histoire. Nous avons vu la Torah se déplacer à travers l'histoire. Nous l'avons vue vivante aujourd'hui même. Nous n'avons plus à essayer de croire en une parole divine parce que nous avons vu qu'elle s'est réalisée, qu'elle se réalise dans le monde entier et particulièrement en Eretz Israël aujourd'hui, où le monde de la Torah s'est concentré et où nous nous efforçons d'envoyer tous nos jeunes. Nous l'avons vu de cette façon-là. Nous n'avons plus de problème de Emouna. Aujourd'hui, nous savons que cette promesse, elle s'est réalisée en partie. Et de même que Rabbi Akiva, qui était devant le temple détruit, pouvait rire parce qu'il savait que si la promesse du premier prophète s'était réalisée, c'est qu'un jour le temple serait reconstruit. Nous aussi nous savons que les pas du Mashiach ne sont pas loin. Nous aussi nous savons qu'il y a un moment où, comme nous dit la Gemara, Atidin Bate Midrashot, les Bate Midrashot, c'est-à-dire les lieux où on étudie la Torah, Atidin, un jour ils seront les Kavab Eretz Israël, On les prendra et on les mettra tels quels en Eretz Israël. Ce jour viendra et nous savons qu'il n'est pas loin. Nous nous sentons déjà le parfum du Mashiach. Ce que nous nous construisons aujourd'hui, ce que nous nous efforçons de construire, ce Beit HaMidrash, ces pierres-là, dont nous savons que nous n'en voulons pas la possession pour longtemps. Nous voulons qu'avec elles, un jour, nous puissions partir en Eretz Israël, atidin, que ces pierres nous emportent, et que nous aussi, un jour, nous comprenions que notre avenir, c'est ce que la Torah nous dit de faire. Notre avenir, c'est les personnalités, c'est les juifs que nous avons formés, ce n'est pas la pierre. Notre civilisation à nous, c'est la civilisation des juifs, mais il n'y a pas de civilisation juive. Nous voulons créer des hommes, nous voulons créer des Talmidei Chachamim, des gens qui étudient, des gens qui comprennent, des intellectuels. Chaque juif a la possibilité et a l'obligation d'étudier la Torah, parce que sans elle, il ne sait pas ce que veut dire être juif. Sans elle, il ne sait pas comment les Chachamim ont élaboré toutes ces lois. Et qui est celui qui n'a pas ouvert un jour une Gemara, comme nous avons ouvert une Gemara du traité de Makot. Et nous avons vu les problèmes des Eidim Zomemim, de ces faux témoins. Nous avons vu la précarité du tribunal de la justice. Qui c'est qui peut aujourd'hui penser, résoudre, s'exprimer sur le problème de la justice transcendante ou immanente, si ce n'est la Torah? Ce sont ces problèmes-là avec lesquels nous vivons sans les résoudre, que la Torah nous permet de résoudre. Nous avons une possibilité, et ce sont nos jeunes aujourd'hui qui relèvent le flambeau ici en terre de France, non loin de tous les centres où étudiaient il y a 700-800 ans les Baalei HaTosfot, ceux qui se sont distingués dans toute l'histoire du peuple d'Israël par leurs commentaires de la loi orale. Ce que nous plantons aujourd'hui, quelquefois il nous a fallu arracher de mauvaises herbes, quelquefois il nous faut nous mettre dans un coin, nous enfouir comme à Yavné. Mais ça, c'est notre construction. Ça, c'est nos possibilités. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ce que nous allons construire, ce soit non pas des pierres seulement, mais que ce soit la construction des personnes, de chacun parmi nous, de chacun du peuple d'Israël. Et que bientôt, grâce à nos efforts, grâce à ces pierres que nous allons planter ici sur la terre de France, ce sont les Batei Midrashot, ces sept plantations-là, ce sont ces pierres qui viendront avec nous en Eretz Israël, où va le Tzion Goel, au moment où viendra le Mashiach, Bimera Beyamenu, Amen.
On félicite le Rav Eman, nous sommes très heureux de recevoir le Rav Frankfurter. Nous avons le grand plaisir de céder la parole maintenant à celui qui a pris les fonctions du Grand Rabbinat de France depuis quelques mois, à qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous souhaitons toute la réussite, Monsieur le Grand Rabbin Joseph Citruc.
Chers amis, je vais commencer par vous faire un certain nombre de confidences. Ce n'est guère mon habitude, mais les circonstances m'y conduisent. Je voudrais que vous sachiez d'abord que je suis là, essentiellement, d'abord et avant tout, par amitié. Amitié, longue amitié, vieille amitié, à l'égard de Rav Daniel Eman, et j'évoque, pour commencer, un vieux souvenir, lorsque moi-même, à peine élève, et lui, toujours élève, nous étudions ensemble au Kollel Chazon Ish à Bnei Brak, et nous avons pu déjà sceller une amitié qui ne fera que se confirmer avec les années. Et je le dis Be'emet agamour, dans le sens le plus intact de la vérité, je crois que c'est l'homme qui, en France aujourd'hui, représente à mes yeux l'une des dimensions les plus indispensables au développement de notre communauté et dont je me sens une très grande proximité de vue et d'action. Et il était important que je vous fasse cette profession de foi que nous avons, dans le passé, expérimenté ensemble. Et j'y ai vu une succession de symboles absolument extraordinaires. Un certain nombre de mes propres anciens élèves sont devenus ses élèves. Un certain nombre de ses élèves ont épousé mes anciennes élèves. Et je crois qu'il y a eu un pont chidouchique qui s'est établi entre Marseille et Épinay, dont on peut dire qu'elles sont des villes jumelles. Il y a des jumelages dans lesquels les maires se rendent des visites et il y a des jumelages dans lesquels les rabbanim se rendent des visites. Et dans les points qui sont ceux qu'il a évoqués, je crois que l'on peut dire sans risque de se tromper que Épinay en sera tous les ans un de plus en plus grand. Et j'ai pensé que Épinay, bien sûr, ça avait certainement une racine hébraïque, ça doit être Efné. Et c'est pourquoi il est marqué l'Erché Efné, Echné. Lorsque j'arrive à Épinay, j'étudie. Ce qui veut dire que la vocation même d'Épinay, c'est d'être le lieu du Limoud. Et c'est pourquoi cette amitié va me conduire à lui pardonner un oubli absolument impardonnable, en fait. Dans la liste de la Torah qui s'est diffusée tout à l'heure, il a oublié la Tunisie. Mais je pense que la raison en est tout simplement l'omniprésence de ceux qui en sont issus et dont on ne parle pas parce que l'air que l'on respire est tellement évident qu'on n'en fait même plus état. Et effectivement, je voudrais dire d'abord que Benny, le présentateur de cette soirée, comme toutes les soirées, celui que je vois le plus, c'est Benny. Dans tout Paris, que Dieu le bénisse, et j'espère qu'il continuera, Bezrat Hashem, de plus en plus à être partout et toujours. On parle beaucoup d'élections actuellement, il y a le premier, le deuxième tour, bientôt le troisième et le quatrième, et nous, on est en plein milieu. On est toujours au milieu, les Juifs. On est le cinquième tour des élections dimanche prochain. C'est l'élection du peuple juif le jour de Har Sinaï. Lorsque, le jour de Shavuot, nous avons été le peuple élu, choisi par Dieu, on ne savait pas. On ne savait pas à l'époque que cette histoire tellement grande allait commencer et qu'elle aurait encore des acteurs de par le monde, dans 140 pays. C'est invraisemblable, Moravi Rabotai, et on pourrait encore développer la carte pourtant très précise qui a tout à l'heure été dressée devant vous. Est-ce que vous savez que 1785 langues et dialectes ont vu la Torah traduite dans ces dialectes? Et qu'il existe même, je l'ai appris dernièrement, une Bible en Eskimo. Simplement, dans le sacrifice d'Isaac, on a remplacé le bélier par un bébé phoque. C'est pour faire plus couleur locale, mais en dehors de ces petits détails qui en fait ne sont que relativement secondaires, on a voulu dire la parole de HaKadosh Baruch Hu à leur façon au monde tout entier. Pour qu'un jour, comme dit le Rambam dans Igeret Teman, qu'un jour l'humanité soit prête à recevoir ce que nous seuls aurons la capacité de lui dire. À une condition, c'est que nous soyons toujours là. À une condition, c'est que nous soyons toujours ce peuple et que la continuité de l'action qui a commencé ce fameux jour soit pertinente grâce à vous. Et je crois que nous ne pourrons le faire que si nous continuons ensemble de rester une grande famille. Et je crois que si effectivement cette famille est grande et que je me sens de plus en plus faisant partie de cette famille, bien que n'habitant pas tout à fait Paris, je voudrais vous dire que ce qui a quand même motivé mon déplacement aujourd'hui, c'est non seulement cette amitié, mais cette énorme construction que nous avons tous ensemble à réaliser et dont je me sens un partenaire effréné. Et je voudrais qu'ensemble, nous construisions de plus en plus ce qui me paraît être une évidence, c'est que seule la Torah sauvera notre peuple. Et qu'aujourd'hui, les gens qui ne savent pas finalement exactement où ils sont, le désarroi dans lequel nous trouvons, les problèmes politiques auxquels nous sommes confrontés, nous voyons une société dans laquelle les gens se cherchent, dans laquelle le langage de l'agressivité est celui qui touche le plus. Et les gens se contentent de discours simplificateurs, dans lesquels on croit que les solutions sont immédiates. Et lorsque des gens votent, je peux le dire pour n'importe qui, c'est parce qu'ils sentent une formule magique, parce qu'ils ne sont pas capables de trouver ailleurs un message qui a un contenu. Et je pense que c'est au contraire le fait de dire qu'il y a aujourd'hui un danger dans telle ou telle faction politique, c'est finalement bien montrer que la société n'a rien à proposer à ses contemporains. Et que s'il n'y a pas des hommes et des femmes comme vous, chers amis, qui savent pourquoi ils vivent, qu'ils savent pourquoi ils se battent, eh bien rien ne sera possible. Je crois que le juif, c'est un homme qui n'est pas très grand. Il occupa une très grande place dans le monde. Mais finalement, qu'est-ce qui le rend grand? C'est le fait qu'il rende les choses grandes. J'ai vu Michel Boujna il y a quelques jours. Il m'a dit qu'il préparait un film sur la grandeur de l'homme. Je lui ai dit, stop, arrêtez les caméras, je vais tout vous dire. En quelques phrases, je lui ai dit ce que nous pensons, nous les juifs, de la grandeur. Je dis, pour nous les grands hommes, ce ne sont pas ceux qui font des grandes choses, c'est ceux qui rendent les choses grandes. Lorsqu'un homme fait quelque chose, ce qui compte, c'est que toute son individu, toute sa force, toute sa neshama, son âme, vibre à travers ce qu'il est en train de faire. Ce qui est le plus important pour moi, Mora Verabotai, c'est ce que je fais au moment où je le fais. Vivre un événement, c'est oublier tout ce qui existe autour. C'est faire en sorte que la chose la plus importante soit celle que j'ai décidé de vivre. C'est moi qui donne aux événements leur valeur. Je ne suis pas conduit par l'histoire, c'est moi qui l'amène là où j'ai décidé d'aller. Et comment cela? Par le caractère qui est un paramètre que l'on ne peut pas mesurer dans la densité d'un événement avant de l'avoir vécu, c'est la façon dont je vais le vivre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, ce que je fais est important, c'est pas la place que cela occupe dans mon emploi du temps, c'est la place que ça occupe dans mon cœur, dans ma décision d'être un homme et de vouloir le rester. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, vous êtes des bâtisseurs de ce peuple. Parce que vous avez choisi pas seulement d'être là, comme les uns ou les autres participent à des activités. Vous avez décidé de vibrer avec quelque chose. Et je pense qu'un discours, c'est une émotion. Que celui qui ne vibre pas dans ce qu'il dit, on n'a pas besoin de l'écouter. Or, lorsque la Torah est Torah, elle est par définition une émotion. Moi, je suis à chaque fois frappé par les textes de nos Chachamim qui disent qu'au moment où Dieu a dit un mot à Anochi, il a dit « je ». Il a dit « je », la première personne, un seul mot, et le monde tout entier s'est arrêté, a suspendu son vol jusqu'aux oiseaux qui se sont arrêtés en cours de route. Les animaux ont cessé de bouger, les hommes ont cessé de respirer. Ça n'a duré heureusement qu'une fraction de seconde. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Que le monde est capable de suspendre son vol devant la parole de Dieu, et que qu'est-ce qui a fait démarrer à nouveau cette parole? Qu'est-ce qui a permis à nouveau au monde d'être? C'est que la Torah a continué. C'est que Dieu a dit aux hommes, maintenant je vous passe le relais, c'est à vous de prendre la responsabilité de mon monde que j'ai créé pour que vous en soyez, non pas seulement les dépositaires, mais les responsables avec moi. Et c'est pourquoi je crois que notre condition de juif, elle a quelque chose de grandiose. Les hommes ont relativement peur aujourd'hui des responsabilités. Et je crois que ce qui fait la grandeur d'un homme, Mora Verabotai, c'est son sens des responsabilités. Qu'est-ce qu'un juif? C'est un bar mitzvah. Quelqu'un qui reste le fils de la mitzvah. Lorsque les hommes deviennent des adultes, ailleurs, ils cherchent leurs droits, le droit de vote, le droit de passer le permis de conduire, et tant le droit de faire des bêtises, tant de choses. Lorsque nous devenons des adultes, qu'est-ce que nous cherchons? Nos devoirs. Nous demandons qu'est-ce que je dois faire? Où sont mes obligations? Alors on peut donc imaginer que la Torah est triste, puisque la Torah est nécessaire, puisqu'elle fait partie du monde de la coercition. On va me dire ce que je dois faire, alors que finalement, j'aimerais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Voilà l'erreur fondamentale. Finalement, l'homme qui se cherche est celui qui ne sait pas exactement ce qu'il doit faire. Parce que quand on sait ce que l'on doit faire, alors on sait ce que l'on veut faire. Et finalement, le vouloir n'est que l'expression profonde du devoir. Et si nous comprenons, nous les Juifs, que bâtir notre univers autour de la Torah, c'est avoir compris où sont nos devoirs. Et donc, par conséquent, vouloir bâtir ce que nous sommes. L'homme est unique. Chaque être ici, dans cette salle, comme dans le monde, est unique, irremplaçable. Le rôle que vous avez à jouer les uns ne peut pas être joué par les autres. Et ce que nous devons faire, c'est connaître ce rôle. Comment le faire? Comment connaître ce que Dieu attend de moi? Il m'a créé pour une raison précise. Vais-je avoir le privilège de la connaître? Et nos sages disent « oui, c'est possible ». Comment est-ce possible? En cherchant ce que vous avez, Mora Verabotai, au fond de vous, comme désir véritable. Vous verrez que dans votre vie, en prenant le temps de vous observer, au lieu de regarder ce qui se passe ailleurs, c'est très facile d'analyser le monde et de faire des grands articles, comme les grands journalistes font de grands éditoriaux, dans lesquels, d'une seule phrase, ils ont englobé tous les comportements humains par des termes parfois méprisants et réduits. Ce que nous disons, ce que nous voulons que l'homme ait le courage de se découvrir lui-même, qui je suis, qu'est-ce que je veux véritablement. Le vouloir, ça peut être simplement la nécessité. Quand on demande à un malade, qui est gravement malade, est-ce que vous voulez vous faire opérer? Il dit oui, je veux. Le malheureux, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Lorsqu'on demande à un enfant, est-ce que tu veux manger? Il veut manger parce qu'il n'a pas le choix. Mais ce n'est pas ça le vouloir dont parle la Torah. Le ratson, dont on dit de Dieu, yehi ratson milefanecha. Que ce soit une volonté de devant toi, c'est l'expression d'un moi profond. C'est ce que je recherche dans ce monde comme étant une réalisation de ma personne. Et je sens que je suis porteur d'un message exclusif. Et chacun doit se sentir porteur d'un message exclusif. Comment vais-je le trouver? Eh bien, j'aurai des signes, et c'est cela qui va m'aider. Je me trouverai tout à l'heure, j'étais ému, moi, comme vous, en entendant nos amis, M. Cachan et puis M. Marciano. Ils ont dit des choses d'une extrême simplicité. Ils ont senti une vocation qui leur parlait. C'est ça le sens de la vie. Et il y a un verset qui dit « Ishal diglo », chaque homme devra camper près de sa bannière. Et ce sera les otot, les bêtes à votam. Et ce verset, c'est comme cela que je voudrais qu'on l'explique. Chaque homme, dans le peuple juif, dans l'économie générale de notre peuple, a sa place. Et je dis bien exclusive, personne ne peut la lui prendre. Ne vous battez pas pour les places des autres, vous avez la vôtre. Et si vous la connaissez, vous êtes un homme heureux. Comment la découvrir? Les otot. Il faut chercher les signes dans votre vie. Les bêtes, où sont les signes? Bait zehaguf shel adam. C'est votre corps, votre personne. C'est là-bas que vous allez découvrir ce qui en vous vous parle le plus. Et vous remarquerez que chaque homme est prêt à presque mourir pour une certaine idée. Les hommes, quand ils sont touchés par quelque chose, sont prêts à aller jusqu'au bout. Un déterminisme profond les agite. Et je voudrais le dire, une détermination va les conduire. Et c'est cette force-là que vous aurez et que l'on appelle en hébreu les bêtes avotam. Avotam ilachon avou. Les avot, nos pères, ce ne sont pas seulement les patriarches historiques de notre nation. Ce sont ceux qui ont voulu. Et Rachid dit une chose extraordinaire qui peut enrichir ici tous ceux qui ont charge dans la société d'autres hommes. Il est dit dans notre Torah, il y a un mot qui désigne le pauvre, Evion. Evion, Rachid explique qu'est-ce que ça veut dire Evion, pas Ani, celui qui n'a pas de quoi manger. Evion, le pauvre, ou mit ave l'echol davar. Il a envie de tout, et pauvre, non pas celui qui n'a rien, mais celui qui a envie de tout. Et justement, dans notre société, on ne sera jamais une société riche, parce qu'on nous apprend à avoir envie de ce que l'on n'a pas. Et lorsque l'on se promène dans un grand magasin, et lorsque l'on voit toutes sortes de publicités, et qu'on se prend à désirer ce dont on n'a pas besoin, c'est là que l'on devient un homme pauvre. On peut être le plus riche du monde. La richesse ne se mesure pas au compte en banque, elle se mesure au désir assouvi. Celui qui n'a besoin de rien, c'est celui qui est riche. Alors ici, on est venu pour apprendre quelque chose. On est venu pour apprendre tout simplement à ne pas avoir des regrets, mais à ne pas avoir non plus des envies inutiles. Et lorsque on a découvert cette satisfaction intérieure profonde, alors je crois qu'on est dans cette démarche dont j'aimerais qu'elle soit un petit peu le symbole de notre soirée, que je voudrais dire en deux idées. La première, c'est que chacun d'entre vous, chers amis, a besoin de vivre intensément sa vie. Et lorsque vous venez ici à Dayan Yeshiva, ne croyez pas que vous rendez service à qui que ce soit. Je voudrais que vous ayez la conviction profonde que c'est vous que vous aidez. Vous aidez vous-même à avoir une part dans une affaire qui est la seule affaire en expansion permanente, absolument pas touchée par les problèmes inflationnistes, absolument indépendante des décisions politiques et qui n'a aucun rapport avec les événements de ce globe. Avouez que c'est quand même sensationnel. Qui ne serait pas prêt à investir dans une affaire comme celle-ci? Eh bien, pour cela, il faudrait tout simplement ressembler à un homme. Cet homme, il avait un grand courage, le courage de la solitude. Je l'aime par-dessus tout. Excusez-moi, j'ai cité des gens que j'aimais, mais il y en a un que j'aime encore plus que Daniel Eman, il s'appelle Abraham Avinu, le patriarche Abraham. Daniel, tu m'excuseras, mais c'est vrai. Alors, je dois le dire. Alors, Abraham, pourquoi je l'aime? Parce qu'il était seul. Et qu'il y avait quelqu'un qui était seul comme lui, qui s'appelle Ribono Shalolam, Yachido Shalolam. Il a dit, « Ani Yachid Be'olami, Ve'ata Yachid Be'olamecha. » Moi, je suis seul dans mon monde, a dit Dieu, et toi, tu es seul dans ton monde. « Bovena Asecha Tivachat. » Viens et faisons ensemble une même équipe. Une équipe, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qui permet de gagner. Une chose est certaine, c'est que si nous restons seuls, c'est une raison précise qui nous conduit à la solitude. C'est que nous avons décidé toujours d'être avec Dieu. S'il n'y a personne avec lui, il y a au moins nous. Comme je dis toujours mes discours, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui les écoute, c'est moi. Au moins comme ça, je fais attention à ce que je dis. Et c'est très important de faire partie de soi. De faire partie par conséquent de ce que l'on appelle dans d'autres religions qui ne sont pas les nôtres, parce que ce n'est pas notre façon de voir les choses. Le parti de Dieu, Dieu n'est pas un parti pris. Il faut prendre parti pour lui, mais lui ce n'est pas un parti. Et c'est effectivement cette démarche-là qui est celle que nous voulons suggérer par cette attitude d'Abraham Avinu. Abraham Avinu a été donc celui qui le premier a dit « Oui, je viens, je marche, je te donne la main, comme une maman, je ne sais pas, il y a des mamans ici, Baruch HaShem, mesdames, Est-ce que jamais vous viendrez à l'idée de lâcher la main de votre petit garçon ou de votre petite fille quand vous marchez? Je sais que vous la tenez très fort et que vous la quitterez jamais, cette main. C'est ce que fait Akadosh Baruch Hu avec nous. Il nous quittera jamais. Il nous a donné la main. Lui, il est éternel. On est donc assuré de l'être. Donc, mesdames et messieurs, je vous dis, l'affaire d'Épinay sera résolue même sans vous. Alors, ayez la chance d'y participer si vous le souhaitez, parce que dans ces conditions-là, vous serez les actionnaires uniques et privilégiés d'une affaire qui ne sera jamais cotée en bourse. Alors, Épinay a 10 ans. Épinay a 10 ans. Est-ce que c'est beaucoup 10 ans? C'est très peu. C'est insignifiant et c'est énorme à la fois. Abraham, pourquoi je l'aimais? J'ai donné une raison et voilà la deuxième. La deuxième, c'est parce que lorsqu'Abraham est mort, la Torah dit de lui, « Ve Abraham Zaken » juste avant « Baba Yamim ». Abraham était ancien, âgé, avancé en jours. Et le Midrash dit un mot que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Le Midrash dit « Baba Yamim Becheshbon Ayamim ». Abraham est venu avec le compte des jours. Ça veut dire qu'on comprend généralement qu'Abraham était capable de présenter devant Dieu tous ses jours et de dire « Tu vois, mes jours, ils sont là. Tous les jours de ma vie, je les ai vécus vraiment. J'ai assumé mon existence. » C'est énorme qu'un homme puisse dire cela. Et pour un jour, pour l'illustrer, je me souviens avoir écouté un jour quelque chose de très joli de Rav Obadia Yosef. Il avait un jour raconté l'histoire d'un rabbin qui, aussitôt nommé dans sa ville en Pologne, avait demandé à visiter, on lui a montré toute la communauté, mais lui a demandé à visiter le cimetière. Il est arrivé au cimetière, il a vu les tombes des gens, et il a vu les noms. Il y avait marqué « Monsieur Untel, 30 ans, 3 mois et 4 jours ». Il a vu une autre tombe, il y avait marqué 22 ans, 8 mois et 6 jours. Il a vu une troisième tombe, il y avait marqué 12 ans, 6 mois et 4 jours. Alors il s'est inquiété, il a dit « Pourquoi tout le monde meurt si jeune parmi vous ? J'ai vu pourtant des anciens. » Il leur a dit « Non, on va t'expliquer ce qu'on fait dans notre communauté. On a pris un engagement depuis des siècles, c'est que tous les soirs, chacun de nos membres de notre communauté, avant de se coucher, rédige sur un petit cahier qu'on lui remet à sa naissance, toutes les mitzvot qu'il a fait et le temps que ça lui a pris. Or, si dans une journée, on a fait une mitzvah, on met 2 heures. Et puis, à la fin de la semaine, on collationne les heures. Et puis, ça va faire, à la fin de la semaine, 18 heures. Et à la fin du mois, on fait la somme et ça va faire tant de jours. Et à la fin de l'année, on multiplie et ça fait tant de mois. Et à la fin de la vie, lorsqu'il meurt, on marque sur sa tombe le nombre d'heures qu'il a vraiment vécu. C'était quelque chose qui a tellement impressionné ce rabbin qu'il a décidé d'être là. Et lorsque j'ai vu cette histoire, j'ai pensé à un texte que je trouve profondément juif. D'ailleurs, il n'y a aucun étalement à cela, c'est qu'il est dans le Talmud. Dans la Gemara de Shabbat, Daf Petet Amud Bet, là-bas, à Kadosh Baruch Hu, on raconte qu'il s'est désespéré de son peuple. Il est arrivé à un stade où, à la fin des temps, il a dit « Je ne peux plus, les Juifs ont fait trop de bêtises, il faut que j'en termine avec eux. » Il s'est tourné vers Abraham, Abraham lui a dit « Ben, si il faut, bon, ben, termine-en avec le peuple juif, tant pis. » Je n'ai aucune arme à présenter devant toi pour les défendre. Il s'est tourné vers Yaakov, il lui a fait la même réponse. Et il s'est tourné vers Yitzhak, surprise, Yitzhak dit, ben moi je vais les défendre. Et effectivement, le texte, je l'abrège très rapidement, voit que Yitzhak monte au créneau et dit à Dieu, je vais défendre Israël. Il lui dit d'abord, maître du monde, qu'est-ce que la vie d'un homme? Tu as marqué toi-même dans la Torah, Yemeshenotenu ba'em shiv'im shana. Un homme vit 70 ans. Jusqu'à l'âge de 20 ans, il est dit dans la Torah que l'homme est irresponsable. Donc il lui reste 50 ans pendant lesquels il est responsable. Pendant ces 50 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la moitié de son temps qu'il passe à dormir, à manger, etc., où il ne fait pas de bêtises. Donc il reste 25 ans. Sur les 25 ans qui restent, qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie de son temps où nécessairement il ne va pas faire de mitzvot, il ne va pas faire de averot, on ne sait pas exactement ce qu'il fait, il va travailler, il lui reste que 12 ans et demi. Alors écoute, je te fais une proposition. Je prends la moitié sur mes épaules et tu prends l'autre moitié sur tes épaules. Et Akadosh Baruch Hu a marché dans la combine et il a accepté de pardonner Israël. Qu'est-ce que l'on a vu ici? On a vu une réduction du temps. Comme il est dit que les marminal, les rechaim, leur temps se réduit. Ils n'ont pas chatsi et mehem. Ils n'ont pas la moitié de leur jour. Et que font les tzadikim? Ils rallongent leur jour. Alors ce que je voudrais vous souhaiter, Morav et Rabotai, c'est que s'accomplisse en vous, v'et mispar yamecha amale. Que je remplisse les comptes de tes jours, dit Dieu à son peuple. Je voudrais que nous soyons, et c'était ce premier enseignement, que je voudrais vous faire comme une bénédiction, que nous soyons des hommes au temps plein et non pas des hommes à plein temps. Que nous ayons effectivement la capacité de faire en sorte que ce soir, en nous couchant, le nombre d'heures que nous avons passées ici soit marqué dans ce fameux petit carnet qui nous accompagnera bien au-delà de notre existence. Et la deuxième chose que je voudrais enfin vous souhaiter, chers amis, c'est, je le disais tout à l'heure, ne pas avoir de regrets au moment où un jour la vie s'arrêtera nécessairement. Pour cela, j'aimerais illustrer mes propos par une toute petite histoire. J'ai une fois entendu d'un rave qu'un jour il s'est rendu à la Tébila, au mikvé, au bain rituel, accompagné de son jeune enfant. Alors le jeune enfant a voulu prendre quand même la Tébila avec son papa. Alors l'enfant a mis le pied dans l'eau. À l'époque, il n'y avait pas les mikvéot luxueux que nous trouvons dans la région parisienne. Il y avait les étangs gelés qui n'étaient pas du tout prêts à ce genre d'exercice. Et voilà que l'enfant met le pied dans l'eau froide et qu'il sort son pied en disant « Aïe !» Alors son père lui dit « Tu vois mon fils, c'est la différence qu'il y a entre une mitzvah et une avera. Une mitzvah, avant de la faire, on fait « Aïe !» parce que c'est difficile. Mais une avera, une faute, une fois qu'on l'a faite, on fait « Oï !» parce qu'on regrette. Alors il vaut mieux, mon rav et rabotai, que nous disions ce soir, non pas « Oï !» après, mais « Aïe !» avant. Il vaut mieux qu'au moment où nous allons tout à l'heure plonger notre main tout au fond de notre veste, pour aller chercher notre stylo qui, désespérément rebelle, ne veut pas rejoindre notre carnet de chèques insouciant, et que nous allons faire ce que Rav Eman a dit, la jonction entre deux choses, et que le stylo va enfin trouver sa destination, que nous fassions à ce moment-là un petit cri de désespoir en disant, quand je pense que j'aurais pu acheter avec cela sur ma Renault 25 l'air conditionné, je pense qu'il vaut mieux conditionner l'air de nos enfants que conditionner celui de nos voitures. Permettez-moi de conclure, chers amis, sur une note d'espoir et sur une bénédiction. La note d'espoir, j'ai jamais parlé aussi longtemps parce que je laisse parler mon cœur, et puis parce que je dois oublier de vous dire que je suis un papa heureux, je viens d'avoir une petite fille à 2 jours. C'est pas ça qui va m'arrêter. Alors, je voulais dire en conclusion 2 choses. La première, c'est que nous partageons ce soir un grand bonheur pour une raison éminente, c'est que nous sommes ensemble. Et je voudrais que vous appréciez qu'est-ce que c'est que le bonheur d'être ensemble. Être ensemble, c'est pouvoir se raconter ce que l'on fait. J'ai dans ma vie eu le privilège, pas toujours gai, de connaître beaucoup de gens riches. Ils me font beaucoup de peine parce qu'ils ont un terrible besoin de raconter ce qu'ils ont. Et s'ils n'avaient pas cette possibilité, je crois qu'ils ne voudraient pas être riches. Et je crois que c'est cela, le véritable bonheur de la vie. Il y a un texte qui dit, que j'ai vu personnellement dans Osher HaChaim, du Rav Chaim Shmulevitch, Alav HaShalom, et qui dit ainsi, dans l'autre monde, il est dit que chaque tzaddik ve tzaddik yesh lo mador bifne atzmo, que chaque juste dans l'autre monde a une résidence qui lui est propre. Alors de là, dit-il, j'apprends que chaque juste, en fonction de son niveau, va être seul à sa madriga, son niveau, et qu'il n'a personne autour de lui. Tandis que dans ce monde-ci, nous avons une chance extraordinaire. C'est que, quel que soit notre madriga, nous sommes tous ensemble. Nous avons donc le privilège de pouvoir vivre ensemble. Et c'est comme cela, disait-il, que je peux comprendre ce que dit Pirkei Avot dans une phrase d'une extraordinaire simplicité et qui est en même temps tout un programme. Lorsque Pirkei Avot dit quelque chose de merveilleux, « Yafa sha'a achat shel korat ruach ba'olam haba mikol chaye olam haze » Une heure de satisfaction dans l'autre monde vaut mieux que toute la vie dans ce monde-ci. Vous savez ce que ça veut dire, toute la vie dans ce monde-ci? Ça veut dire Monte Carlo, ça veut dire Manhattan, ça veut dire les richesses de la Suisse, ça veut dire toutes les beautés de la mer Égée en été dans un yacht. Et ça veut dire tout cela à la fois, toutes les richesses de ce monde et tout ce que l'on peut profiter, ça ne vaut pas une heure, non pas de vie dans le monde futur, de Korat Ruach. Qu'est-ce que ça veut dire Korat Ruach? Korat Ruach, cela veut dire quelqu'un qui regarde les autres manger sans participer à la Seouda, comme les garçons par exemple ce soir. C'est ça Korat Ruach. Et il est dit que dans l'autre monde, il y aura une immense table dans laquelle seront assis beaucoup de tzadikim. Il y aura tous les grands de notre peuple et parmi lesquels, j'espère, vous reconnaîtrez ici de très nombreux visages familiers le moment venu. Et puis, dans cette table-là, peut-être que nous, on ne sera pas non pas invités, mais on aura la permission de les voir manger. Rien que ça s'appelle en hébreu « korat ruah ». Je me rappelle qu'en Angleterre, la célèbre Ladidi, vous connaissez Ladidi, a un jour fait un grand repas. Elle a invité les sujets anglais qui voulaient voir manger les nobles de ce monde à regarder. Et ils pouvaient regarder derrière une vitre fumée pour ne pas déranger ceux qui mangeaient. Et ils ont été obligés de payer pour voir les autres manger. C'est exactement cela que veulent dire nos Chachamim. Une heure de korat ruah dans l'autre monde vaut tout le monde d'ici-bas. Et nos maîtres ajoutent, mais une heure dans ce monde ici-bas de ma'asim tovim, de bonnes actions, vaut toute l'éternité dans le monde futur. Méditons cela. Ça veut dire qu'en une heure maintenant, on est capable d'emporter la décision parce qu'on a la possibilité d'agir. Le Gaon de Vilna sur son lit de mort disait « Kama yafe olam hazeh, kama yafe olam hazeh ». Et Rabbi Chaim de Volozhin qui s'est tendu près de lui pour comprendre qu'est-ce que disait le maître qui disait « Combien beau est ce monde-ci » lui a dit « She'efchar liknot bo chavila shel tzitzitim kama protot ». On peut acquérir ici-bas un paquet de tzitzit avec quelques francs, ce qu'on ne pourra pas faire avec toute la fortune dans Olam Haba. Vous avez la possibilité donc d'acquérir quelque chose ce soir, de quelque chose de très grand, dont je voulais vous dire que premièrement vous pourrez avoir la joie de le faire savoir, non pas de le dire pour vous enorgueillir, mais d'avoir la joie de partager celle des autres, et de savoir qu'effectivement, lorsque vous allez donner pour la yeshiva, vous allez bâtir quelque chose qui vous concerne à vous, et qui vous concerne d'abord à vous, qui sera votre histoire. Et pour illustrer ce que je voulais dire, j'avais une fois raconté une histoire, je crois que Benny s'en rappelle, c'était l'histoire d'un rabbin qui aimait beaucoup le golf. Et il avait, en allant de chez lui à la synagogue, un terrain de golf. Alors, le jour de Kippour, il était allé à la choule, et puis il est passé le long du terrain. Est-ce qu'il rentre, est-ce qu'il rentre pas, est-ce qu'il rentre, est-ce qu'il rentre pas. La tentation était très grande. Puis finalement, vers le milieu, il craque, il rentre dans le terrain de golf. Il prend un club, et puis il envoie une balle, qu'il envoie dans le trou le plus difficile, un coup qu'on réussit tous les 20 ans. Alors il se tourne vers Dieu et lui dit « Tu m'as fait ça juste aujourd'hui, c'était Kippour. » Alors il y a une voix qui lui répond « C'est ta punition, c'est que tu ne pourras pas le raconter. » Et effectivement, la punition la pire que l'on pourrait avoir, c'est de ne pas pouvoir raconter. Ce soir, nous vous autorisons à raconter. Et mon dernier mot, Morin Verabotaï, sera pour votre propre portefeuille qui m'est aussi cher que le mien, que j'ai d'ailleurs oublié, et j'espère que ce n'est pas votre cas par contre, et qui, ce portefeuille, la Torah en dit un mot très simple. Elle dit de lui, ce portefeuille, « Aser te aser ». Un mot très connu, « Tu prélèveras la dîme ». Et nos sages ont dit, la Torah qui est tellement avare de chaque lettre, pourquoi a-t-elle répété le verbe? Et il dit ce qui est bien connu, « Aser bishvil shetit asher ». En hébreu, il y a quelque chose d'absolument fabuleux, c'est que la lettre « shin », en fonction du point que vous mettez à gauche ou à droite, comme quoi c'est très important de ne pas se tromper entre la gauche et la droite, effectivement, cette lettre-là veut dire que si vous mettez la lettre à gauche, c'est « aser », et si vous mettez la lettre à droite, c'est « asher ». C'est pourquoi les capitalistes votent d'ailleurs pour la droite et les autres pour la gauche. Parce qu'ils savent qu'à gauche, on va leur enlever l'argent et qu'à droite, on va leur donner l'argent. Ça, c'est « atsum » mais c'est en passant. Ce que je veux vous dire simplement de plus important, c'est que si la Torah dit « aser, t'es aser », elle dit « juif, je vais te dire quelque chose qu'a dit justement ce même Abraham que j'aimais tant ». Abraham, quand il s'est séparé de Lot, il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit « Ima smol ve emina, ve ima ayamin ve esmi'ela ». Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Alors voilà ce que dit Dieu aux Juifs. Il leur dit la chose suivante. Vous avez une lettre avec une même racine. Si vous mettez le point de cette lettre à gauche, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si vous donnez « aser », vous donnez le dixième de vos revenus, alors moi, dit Dieu, « ve'emina », je le mets à droite. Et qu'est-ce qui se passe? « T'es asher », tu deviendras riche. C'est-à-dire, Dieu dit, il nous promet qu'on ne manquera jamais d'argent si on le donne à la tzedaka. « Ve'im ha'emin », mais si tu le mets à droite et que ce que tu veux, c'est ta propre richesse, « si asher », alors moi, je mets le point à gauche, « t'es asher », ça veut dire quoi? Tu ne recevras que le dixième de la fortune que j'avais prévu de te donner. Alors, comme je le disais en commençant, mesdames, messieurs, vous n'avez jamais fait une aussi bonne affaire qu'en venant à cette soirée. Vous en étiez convaincus. Pardonnez-moi de vous avoir retenu pour vous le dire.
Thank you.
On donne la parole à Rabbi David Pinto, s'il vous plaît. Bechavod.
Béchot, Moray, Verapotay. Je ne vais pas parler de Divrei Torah parce que Baruch Hashem, il y a eu déjà des rabbanim qui ont parlé avant moi. Mais je voudrais simplement vous dire une chose. Que la semaine dernière, Abhema m'a demandé une question. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez venir? Je lui ai dit, je viendrai et j'amènerai des personnes avec moi. Il m'a demandé, mais est-ce que c'est vrai? Toi aussi, tu as des yeshivot, comment tu vas amener des gens avec toi? Je lui ai dit que dans la Torah, il n'y a pas de jalousie. Dans la Torah, il n'y a pas de clan. Tout ce qui est Torah, on doit être unis. Tout ce qui est Torah, il faut qu'il y ait l'union. Je me suis rappelé ce que David HaMelech, alav shalom, il dit. Samahti be'omrim li bet Hashem nelech. David HaMelech, il disait que chaque fois lorsqu'on lui disait, il entendait qu'il y avait des gens qui allaient à une synagogue ou à un Beit HaMidrash, David HaMelech était très content. Je vous pose une question. Et je crois que c'est une question qu'on se pose tous. Est-ce que David HaMelech, alav shalom, on pouvait avoir une pensée pendant une minute que lorsqu'il entendait quelqu'un qui allait à Beit HaMidrash, il n'allait pas être content? Bien sûr. Qui ne va pas être content? Qui ne va pas être content lorsqu'il entend que quelqu'un est parti étudier la Torah? Alors qu'est-ce que David HaMelech veut dire par là? La réponse, il est simple. Vous savez que David HaMelech, lui aussi, il avait des yeshivot. Il avait à Yavne, il avait à Yerushalayim, il avait des yeshivot de partout. Lui, David HaMelech aussi, il allait de ville en ville pour ramasser de l'argent. Mais, lorsqu'on lui demandait de venir, par exemple, ramasser de l'argent pour une autre institution, David HaMelech, il était content. Ça veut dire que David HaMelech, alav shalom, il n'avait pas de... Il n'y avait pas de concurrence dans la Torah. David HaMelech, alav shalom, toute sa joie, c'était lorsqu'il entendait qu'il y avait la Torah de partout et il pouvait lui aussi participer pour aller aider d'autres à leur ramasser de l'argent pour leurs besoins. Donc, Rabotai, vous avez voulu une beracha. Tout à l'heure, ils ont dit que j'ai un zchout. Je dirais que moi, Hassi Haïla, personnellement, je n'ai pas de zchout. Nous serons tous en Israël ont un zchout. Nous tous, nous sommes de Zera, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Nous tous, nous avons le zchout de Abraham, Yitzhak, Yaakov, les tzadikim que vous vénérez. Donc nous tous, nous avons un zchout à égalité. Donc, Abodai, puisqu'on m'a dit de vous faire une beracha, alors ma beracha, je ne crois pas qu'elle est aussi grande que la vôtre. Je vous dirais que, Yeratson, avec l'aide de HaKadosh Baruch Hu, et Bisrot, la Torah, que vous êtes en train de supporter ce soir, qui est la Torah, à épiner, que HaKadosh Baruch Hu vous protège, Kineratson, et vous donne la santé, et la joie, et la prospérité, et que Be'ez Hashem, que vos enfants se marieront avec des bénis Israël, Kineratson, et qu'avec l'aide de HaKadosh Baruch Hu, nous tous, on sera présents, on aura le zéchout, le mérite d'entendre la voix de Mashiach. Amen, Kinei Ratzon.
Chers amis, vous savez que lorsque quelqu'un accomplit une mitzvah, on ne le remercie pas, mais on lui dit au contraire « tizke la mitzvot », c'est-à-dire que la mitzvah que tu viens de faire te donne l'occasion d'en faire encore beaucoup et de plus grandes si possible. On raconte qu'il y a maintenant une soixantaine d'années, lorsque la grande yeshiva de Lublin a été édifiée, il y a un homme qui a donné tout seul le terrain pour l'édification de cette yeshiva. Et à ce moment-là, présent à cette inauguration, il y avait un des plus vieux rabbanim de la génération, le rabbi de Tchortakov. Et il lui a dit, pour la mitzvah que tu viens de faire, pour l'énorme action, je ne suis pas jaloux. Mais je suis jaloux pour l'autre mitzvah que tu as faite et qui t'a permis aujourd'hui de faire celle-ci. Cette autre mitzvah-là, je ne la connais pas. Et c'est celle-là qui était encore plus grande. C'est la raison pour laquelle je me permets ce soir de vous dire à tous, tizkei la mitzvot, que Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'à travers vous, l'aide que vous nous avez apportée ce soir, nous puissions développer la yeshiva. Ce soir, vous avez vu à notre table un enseignant de la yeshiva, Rav Yitzhak Levi. Rav Yitzhak Levi est venu nous joindre il y a quelques mois à Épinay pour enseigner à la yeshiva. Il a commencé à donner des cours et on peut dire que c'est lui qui le premier a eu cette idée, qui le premier a rêvé ce rêve. Il faut acheter la yeshiva, il faut construire, il faut rénover, il faut se développer. Et c'est lui le premier, par une action qui est connue de lui seul, qui a donné cette impulsion. Mais comme toujours, il y avait une mitzvah avant pour que celle-ci puisse se faire, pour que cette impulsion extraordinaire qui nous a été donnée. Et je me rappelle un soir, lorsque Rav Yitzhak Levi est venu au shiur, au cours, chez notre ami Alain Azria, et il nous a dit, ça y est, maintenant on se lance, on peut se lancer. Vous savez qu'il existe un cours à Paris qui réunit une cinquantaine, une soixantaine de personnes tous les mercredis soirs au restaurant Zazou à la salle du deuxième étage. Et à ce chiour, à ce cours, il y a des hommes, des dames qui viennent de tous les horizons. Je ne pourrais pas les nommer tous ici ce soir, ni leur dire à tous tizkei la mitzvot, chacun individuellement, mais qui sache qu'au plus profond de notre cœur, Rav Yitzhak Levi et moi, nous avons compris ce soir que Massa Hakaved Lechad, lorsqu'un fardeau est lourd pour un seul, il le partage. Et de même que nous avons partagé le limoud, l'enseignement, nous avons partagé la possibilité que vous nous avez donnée ce soir de construire, d'agrandir. Et cette possibilité, nous savons tous qui est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a envoyé pour nous la donner. J'ai rencontré, il y a maintenant un peu plus d'un an, avant Pessah de l'année dernière, un homme, Rav Yechiel Froilir Zecher Tzadik Livracha. Je suis monté chez lui pour un problème technique. C'est un homme qui ne savait pas qu'est-ce qu'il pouvait manger à Paris. Il ne mangeait que du pain et du fromage blanc. Et mon ami Benny Cohen m'a dit, montez et proposez-lui de lui amener des repas de la yeshiva. Et je suis monté chez lui, et lorsqu'il m'a vu, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais en France? Je lui ai dit que l'on essayait d'enseigner un petit peu la Torah. On avait essayé de monter quelque chose, qu'il y avait une yeshiva, qu'il y avait des élèves. Et il m'a dit, je n'en crois pas un mot. À ce moment-là, je lui ai dit, venez voir. Et il m'a dit, fais-moi plaisir. Viens Motsaï Shabbat, c'était le vendredi après-midi, viens Motsaï Shabbat avec quelques élèves. Et il m'a dit, puis-je te poser quelques questions? Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une institution pareille en France, et je voudrais savoir, avant de voir tes élèves, ce que tu sais toi. Et il me l'a dit en riant, et je lui ai dit, je suis d'accord, faites-moi l'examen que vous voulez. Par miracle, parce qu'il était accoutumé de ce genre de choses, il m'a posé des questions auxquelles j'ai pu répondre. Il s'agissait de la Gemara Yevamot, du traité de Yevamot que l'on étudiait à la Yeshiva. Un traité qu'il connaissait par cœur, mot pour mot. Il m'a posé trois questions. Et on peut dire par hasard, Dieu nous a aidés à ces trois questions qui étaient des questions classiques. J'avais entendu la première de mon maître, Rav Yosef Dov Soloveitchik, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Brisk. J'avais entendu une réponse au nom de son père, le Rav Mibrisk. Lorsque je lui ai dit, il a sauté sur son siège de joie, il s'est levé, il m'a embrassé. À la deuxième réponse, je lui ai dit, je vais vous donner la réponse d'un des élèves au cours. Et là, il s'est mis à pleurer, il m'a dit, je ne te poserai pas la troisième question. Lorsque nous sommes venus le Motsaï Shabbat avec quelques élèves, il m'a dit, mais il y avait une vingtaine d'élèves, il m'a dit, mais qui est-ce qui s'occupe du financement d'une telle institution ? Après avoir vu la qualité des élèves, lorsqu'il avait compris qu'il n'y avait pas grand monde autour de nous, le soir même, devant tous les élèves, il m'a dit, je suis Mitraïev, je m'engage à te fournir 100 000 dollars avant 6 mois. Devant l'énormité de la somme, nous n'avons pas réagi. Quelques jours après, il m'a présenté à celui dont je pense que je puis dire qu'il est mon ami, Serge Cachan. Et il a dit, faites un comité. Il y avait là aussi Alain Azria, il y avait Benny Cohen. Et il a dit en cette occasion, je le répète parce que les mots ne sont pas de moi, et il est important de les dire. Il a dit, ce que j'ai vu en France, la Touma, l'impureté que j'ai vue, elle est extraordinaire. On m'a amené pour que je les bénisse, tous ceux qui ont fait toutes les bêtises du monde, ceux qui sont au fin fond de la drogue. Et s'il y a une institution par le mérite de laquelle tout cela tient ici, ça ne peut être que celle-ci. Et nous avons créé ce comité. Et là, nous avons compris que l'un fardeau que l'on ne peut pas porter seul, lorsqu'on est plusieurs à le porter, non seulement il est allégé, et les 100 000 dollars ont été récoltés bien avant les 6 mois écoulés, mais de plus, combien il est bon, combien il est doux de pouvoir s'asseoir, Shevet Achim, assis tous ensemble, en train d'étudier la Torah, et après le cours de faire des plans pour organiser une soirée, pour organiser une collecte, pour organiser la vie de la yeshiva. Malheureusement, c'est avant Shavuot, alors qu'il m'avait téléphoné d'Eretz Israël, qu'il viendrait passer Shavuot chez nous à la Yeshiva. Il est décédé le 2 Sivan, exactement un an jour pour jour. Et il faut savoir que lorsque nous avons décidé de cette soirée, nous avons décidé qu'elle aurait lieu le 15 mai. Nous avons téléphoné au grand rabbin Citruc, qui nous a répondu qu'il n'était pas libre le 15 mai, mais qu'il pourrait nous donner une autre date. Il a refait téléphoner à la Yeshiva pour nous proposer la date définitive du 17 mai, qui est exactement le jour anniversaire de la mort de Rav Yechiel Freudir, Zecher Tzadik Livracha. Il y a un an que cet homme-là nous a quittés. Il y a un an qu'un homme qui était venu d'Eretz Israël, qui n'avait aucun lien particulier avec la France, est venu à notre secours. C'est à partir de ce moment-là que ce cours du mercredi soir a été créé. C'est à partir de ce moment-là que nous avons fait la connaissance de tous nos amis, que ce soit Charlie Labiod, la famille Labiod, Michel Belilti, Rafi Belilti, je ne pourrai pas les citer tous ce soir, vous m'en excuserez, le docteur Abitbol que je vois ici, tous nos amis, tous ceux qui sont avec nous, Yossi Zinamon, tous ceux qui sont avec nous ce soir, tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette soirée, et tous ceux qui nous ont permis, qui vous ont permis de construire cet édifice, qui un jour, nous sommes sûrs, qu'il arrivera à former des Juifs, à former la communauté française dans l'esprit et exactement selon le modèle que l'avait non pas rêvé mais prévu Rav Yechiel Froidlich, Zecher Tzadik Livracha.
Je vous fais savoir que le Rav Toledano nous dit que Yechiel, c'est 18, c'est son nom. Chai, ça fait 180 000. Alors Chazak, il est évident que ceux qui ont acheté la synagogue au nom du Rav Yechiel seront bien sûr associés à nous. Je pense à Charlotte Cohen, à Yves Zouari et à tous ceux qui sont dans la salle. Alors toutes les prières seront pour son sroute. On félicite tout le monde et on demande au Rav Frankfurter de nous dire un petit mot, s'il vous plaît. Si vous voulez que le Rav Frankfurter parle, debout parce qu'il pense que vous voulez partir. Rav Frankfurter, je suis navré. Nous sommes en période électorale, la majorité a voté.
Chers amis, alors qu'il est Il aurait été difficile de vous refuser ce supplice de quelques minutes de discours lorsque cela est demandé avec tant d'amitié et surtout pour me permettre de m'associer à l'hommage que vous avez tous rendu à l'œuvre extraordinaire de Rav Heyman Hashem Yachiyam Avushnotav, à l'œuvre qu'il a fait maintenant entouré d'une équipe dynamique, efficace et convaincue comme on n'en trouve pas beaucoup à travers le monde, Bruchim Tiyu tous, une équipe qui est soudée d'amitié par ceux qui sont là et dont la mémoire bénie de Rav Yechiel Froidlich a littéralement rendu fulgurant ses pensées de liens basés sur la Torah et que sur la Torah. Et ceci est un cas rare. En effet, lorsque généralement nous parlons de communauté juive ou d'institution, rappelons-nous qu'existait jusqu'à il y a quelques années, en règle générale, une association avec des membres cotisants ou donateurs. Avant cela, on avait mieux. On avait des membres. Ils étaient tous tenus à avoir une activité, venir une fois de temps en temps faire quelque chose. Des cotisants payent et les autres font le travail. Des membres doivent agir. En dehors des membres, il y avait, mieux que cela avant ou ailleurs, il y avait des fidèles. Dans les communautés que nous connaissions, les fidèles venaient prier et participer à des activités. Avant cela, il y avait des talmidim, des disciples. Cela formait l'institution. Il ne venait pas consommer, il l'a formée. Et aujourd'hui, avec vous, grâce à vous, autour des rabbanim, autour de ceux qui assistent aux cours hebdomadaires et aux activités de Darkeno et à tant d'autres activités de Shiurim, nous avons toute la chaîne des possibilités de ceux qui s'associent parce qu'ils sont des adhérents cotisants, jusqu'à ceux qui sont des talmidim, avec ici dans cette salle ceux qui ne doivent pas être oubliés et qu'il faut applaudir et encourager, ce sont les travailleurs dans l'ombre, les véritables élèves de la yeshiva, les futurs talmid et hachamim. Ces travailleurs dans l'ombre sont ceux qui nous procurent la lumière. Kiner mitzvah ve Torah or. La nouveauté de cette formation, de cette association extraordinaire, elle est à l'inverse de l'anecdote fort connue. Rav Levin, connu un livre « Ish Tzadik Haya », raconte sa vie et une anecdote peu connue. Il inspectait les yeshivot et un jour il inspectait une école primaire. Et au moment où il inspectait, il a raconté à ce moment-là au professeur la chose suivante. En fin d'année, comme en période du mois de juin ici, un professeur veut faire une petite fête avec ses élèves. Il veut faire une petite fête et il appelle un élève. Moshe, va, apporte une bouteille, on va dire une bracha, de la limonade, des adultes. C'est de la boucha, c'est de la nisette, c'est de la vodka, on dit le chaim. Nous, on va dire le chaim sur de la limonade. Allez, va. Et l'élève se lève, et il reste là, il dit, alors Moshe. Moshe dit, mais et de l'argent? Il dit, Moshe, un élève intelligent comme toi de Jérusalem, avec de l'argent, j'aurais envoyé n'importe qui, mais je t'envoie toi, débrouille-toi. Hop, le rabbi continue son cours, l'élève file, 2 minutes après, il revient, rabbi, voilà, et il met une bouteille sur la table. Le rabbi prend, il regarde, il dit, mais la bouteille est vide. Rabbi, une bouteille pleine, tout le monde peut dire le chaim, mais vous, c'est qu'une bouteille vide. Quelle était la leçon de Rav Levin? C'est qu'il y a parfois, dans des communautés où on attend des miracles du rabbi, qui est de faire fonctionner l'institution sans argent, il est si génial. Et le rabbi réussit le miracle de faire dire le chaim avec une bouteille vide. C'est-à-dire de faire transformer en véritable personne érudite, équilibrée, ce que le reste de la société aurait donné pour des cruches brisées. C'est cela le miracle de la résurrection de la yeshiva. Bien sûr, il y avait un miracle de faire de la Torah sans avoir de l'argent et d'aller en ramasser. Très bien. Mais réussir le miracle de dire le chaim en prenant, récoltant ce qui autrement n'aurait pas été ce que nous connaissons et qui sont maintenant source de fierté d'Israël et qui vont reconstruire des familles, bâtir un avenir, ça c'est la yeshiva Mekor Israël, ça c'est la source d'Israël dont Rav Heyman peut dire, dans le ciel on désigne tel et tel de ses élèves et on dit le fruit de tes efforts est source de bénédiction. Je crois qu'en tant que Rav, c'est pour moi un privilège d'être associé depuis la naissance de cette yeshiva et son développement, et ce soir et par la suite, Yemir Tachem, à ce qui n'est pas simplement une yeshiva, mais qui devient aussi un vrai makom Torah, un endroit de Torah, de rayonnement vivifiant pour l'ensemble de la communauté, et un îlot de pureté à l'intérieur du clan Israël, avec un maître qui dit les choses clairement, sans emphase, sans maquillage, avec perspicacité, intelligence et connaissance, de manière à ce que chacun des élèves, chacun des participants, puisse être formé sur le plan culturel, spirituel et j'ajoute émotionnel. Parce que vivre avec du savoir, ce n'est pas suffisant. Vivre avec piété, cela est indispensable, mais non définitif. Y mettre le cœur et la raison, ajouter une action et garder l'équilibre de la personne, dans l'étude de la morale et dans le respect de l'enseignement de tous les maîtres spirituels d'Israël, quel que soit le berceau de son enfance, telle est l'unité d'Israël qui, de l'est à l'ouest, du nord au sud, rebâtit là où il est la Jérusalem d'éternité. Eh bien, en cette veille de Shavuot, permettez-moi de souffrir encore un point que nous voulons souligner. La fête de Shavuot, dans le Sefer Torah, n'est pas désignée par une date dans le mois. Il est désigné par un intercale de temps, 50 jours après Pessah. Si le mois lunaire qui est sanctifié par le Sanhédrin a 29 ou 30 jours, Nissan et Iyar ayant 29 jours. À ce moment-là, le 50e arrive le 7 Sivan, 6 Nissan. Et Iyar sont comme aujourd'hui dans notre calendrier fixé 29 et 30, c'est le 6 Sivan. Et si Nissan et Iyar en 30 jours, c'est le 5 Sivan. Du temps du Talmud, la fête de Shavuot, anniversaire du don de la Torah, pouvait être célébré le 5, le 6 ou le 7. C'est-à-dire que le temps de la Torah ne dépend pas d'une date. Il n'est pas fixé en fonction tel jour, tel moment. Il est au-dessus du temps et il est aussi au-dessus d'un Dieu. Le mont Sinaï était banal avant, il est devenu banal après la théophanie du Sinaï. Le mont Sinaï est un lieu qui a reçu la révélation de Dieu avec l'engagement d'Israël. Il n'est pas retenu comme un endroit sanctifié parce que Torah ne se définit ni dans le temps ni dans l'espace. Il est pour l'éternité, pour la pérennité d'Israël, pour l'immensité de l'espace créé. Où que nous soyons, quel que soit le moment, c'est la loi divine avec le fait de nous river avec la volonté du Créateur qui fait que Israël a son identité. Et c'est cela la fête de Shavuot, fête de Shavuot qui donne l'identité au peuple autour d'une vocation, autour d'une étude qui devient témoignage d'une vérité, autour d'un culte et d'un savoir qui donne une manière particulière d'être homme, l'homme qui réconcilie corps et âme, matière et esprit, et qui devient pensée agissante dans le monde et qui est source de bonheur pour les autres. C'est le fait de devenir cet agent dynamique comme Abraham, Yitzhak et Yaakov qui font que chacun de nous, où que nous soyons, quel que soit le ciel sous lequel la Providence nous a placés, quel que soit le moment où nous aurions à agir, à nous réidentifier avec ce qui donne valeur à notre peuple, ce qui donne un sens à notre patrie, c'est-à-dire un pôle de rayonnement autour de ces vérités. Eh bien, que la yeshiva, qui comme cela a été rappelé par Rav Heyman lui-même, cette yeshiva qui est une ambassade du ciel en France, partie extraterritoriale d'Eretz Israël, directement rattachable à Jérusalem à la venue de Mashiach. Eh bien, lorsque nous sommes branchés avec les vérités de la yeshiva, nous sommes véritablement par-delà les siècles avec fulgurance dans le faisceau de la vie. Et c'est cela le miracle, c'est cela le fait de relier les générations d'avant, de savoir qu'une mémoire telle que celle de Baba Salé, le Baal Shem Tov, Rav Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rav Pinto, tous ces tzadikim dont la mémoire bénie continue à donner jouissance et réjouissance à ceux qui vivent et étudient dans l'exemple qu'ils nous ont donné, eh bien nous sommes dans le temps tournés vers l'avenir en puisant dans ces racines de pérennité dont nous sommes les héritiers. Dans ce patrimoine de Torah, nous faisons à Shavuot une seule mitzvah. Quelle est la mitzvah de Shavuot ? À Pessah, on mange de la matzah. À Sukkot, nous célébrons la vie de fête à l'intérieur d'une hutte, d'une cabane, la soukha. À Rosh Hashanah, on sonne du shofar. Que faisons-nous comme mitzvah particulière à Shavuot ? Rien. Aucun acte précis et spécial. Mais étudier, apprendre, méditer, se ressourcer, revenir à la vie, c'est cela, la pureté de l'éternité qui n'est liée à aucun acte, à aucun lieu, à aucun moment. C'est un moment de renaissance pour l'éternité. Et c'est ce qui est signifié dans le fait que Shavuot soit Chag HaBikurim, le fait des prémices. Prémices, chacun d'Israël est un Bechor, chacun d'Israël est un premier-né face à son rôle dans les nations. Chacun d'Israël doit être un leader qui est l'initiative, qui s'engage et qui poursuit. Et à chaque Shavuot, Yeratzon, comme le disait le Baal Shem Tov, que nous entendions l'écho du mont Sinaï, et alors, comme au mont Sinaï, les boiteux ont couru, les sourds ont entendu, les aveugles ont vu, tout le monde a été guéri, que nous recevions chez nous la Torah, et comme disait notre maître Tzadik Livracha Rabbi Tzikl, que les brachot de la Torah viennent chez nous, que dans chacun de vos foyers, rattachés à l'ensemble d'Israël, ces bénédictions s'épanouissent, vivent avec vous et vous accompagnent pour la prospérité de nos familles avec l'ensemble d'Israël. Yéhacher Kochachem, bravo, et soyez tous bénis, b'chaye bon imzon revire, b'sheifa brocho vatzlocho, avec nos maîtres, en bonne santé, ad mea veshim shana, ad biad goel tzedek, bimera biamenu.